Nathan la fin de la musique.
Ça a commencé, l'émission a commencé.
Debout.
Énorme.
Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Morning Tour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tour, il est 7h17, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours, c'est la rentrée pour nous aussi, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette heure d'émission en ce vendredi 8 novembre. Ce matin, nous débuterons par les informations de la semaine présentées par Léo Ségura, puis Jules Frécon nous parlera de la polémique autour du livre du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, avant la naissance d'une toute nouvelle rubrique dans cette émission, la revue de presse présentée ce matin par Victoire Renard de Winter. Nous retrouverons ensuite Léo Ségura pour un autre flash d'informations avant de s'évader un petit peu, de partir pour l'international en Asie. Camille Amara Betati nous parlera du smog qui menace le Pakistan. En Afrique, Lou Attar évoquera la migration en Mauritanie. Et enfin, sur le continent américain, Théo Leur souhaite revenir sur les élections, sur les résultats de l'élection présidentielle et ses répercussions au niveau international. Dans la troisième partie de notre émission, Mathis Modet nous présentera les informations sportives de la semaine et interrogera les chances de victoire d'une équipe française sur le Tour de France 2025. Angelina Richard nous parlera des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Lucago reviendra sur le fossile de dinosaure découvert en Normandie. Jules Bourbotte abordera le sujet des Daft Punk au cinéma. Et enfin, on en a presque l'habitude désormais, Marie-Camille Chauvet conclura cette émission en nous parlant cette fois de la participation de quelques étudiants de l'EPJT à la remise du prix Anna Politkovskaya qui récompense le courage journalistique. Vous écoutez bien Good Morning Tour sur 99.5 FM. Il est 7h18 et tout de suite, les informations.
Un appel à la paix entre les peuples. Les explications du collectif Ultra Paris, auteur du tifo pro-palestinien déployé mercredi soir au Parc des Princes. Le groupe de supporters a indiqué hier dans un tweet que la banderole n'avait en aucun cas vocation à véhiculer un message de haine. Non sanctionnée par l'UEFA, cette démonstration a tout de même valu au président de la FFF et au directeur général du PSG une convocation au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, à l'étranger, hier, un incident diplomatique entre la France et Israël en cause l'intrusion de forces israéliennes armées et sans autorisation dans un domaine français à Jérusalem. Deux gendarmes francophones ont été arrêtés. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui se rendait sur les lieux, dénonce une situation inacceptable. Cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël, a-t-il déclaré. L'ambassadeur d'Israël en France sera convoqué dans les prochains jours, a indiqué le Quai d'Orsay. De nouvelles informations concernant la mort de l'ex-chanteur des One Direction, Liam Payne, survenue il y a 3 semaines. Le parquet argentin a indiqué jeudi que le musicien britannique avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa chute fatale depuis son hôtel à Buenos Aires. 3 personnes ont été inculpées pour vente de stupéfiants et abandon de personnes vulnérables, a précisé le parquet. Enfin, la sortie aujourd'hui du nouvel album de Julien Doré, Imposteur. Le chanteur y revisite des classiques de la chanson française, Mourir sur scène, Moi Lolita ou encore Toutes les femmes de ta vie. Ce sont des chansons qui ont un point d'ancrage avec ma vie, des chansons que j'ai aimées et qui font partie de mes souvenirs, explique l'artiste. Imposteur, disponible sur toutes les plateformes.
Merci Léo Ségura, il est 7h20 sur Good Morning Tour, l'heure de la chronique politique de Jules Frécon qui nous parle du président du Rassemblement National puisque demain sortira Ce que je cherche, l'autobiographie de Jordan Bardella. Et aujourd'hui, Jules, vous revenez sur la polémique qui entourait la sortie de cet ouvrage.
Tout commence le 16 octobre dernier. Ce jour-là, le syndicat Sudrail envoie un courrier à Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Il lui demande, je cite, de refuser de faire campagne pour l'extrême droite dans nos gares. Ce que dénonce le syndicat dans ses propos, c'est un plan de communication conclu entre la régie publicitaire de la SNCF et la maison d'édition Fayard. La finalité de celui-ci, c'est la mise en avant du livre de Jordan Bardella sur 580 panneaux d'affichage pendant plusieurs semaines, et ce, dans plus d'une centaine de gares, en région parisienne et dans toute la France. Problème, Mediatransport, la régie pub de la SNCF, n'apprend que le 16 octobre, en même temps que Sudrail, l'intitulé du livre concerné par ce plan de communication.
Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
C'est un droit des maisons d'édition que Fayard a exercé ici. L'entreprise n'avait pas indiqué dans le plan de communication le nom du livre concerné par la réservation de ces 580 panneaux d'affichage. Alors quand la SNCF et sa régie publicitaire apprennent tout, elles réagissent, en expliquant notamment qu'aucun visuel des affiches n'a été reçu de la part de Fayard. Mediatransport précise également au journal L'Humanité « Nous pouvons refuser une campagne d'affichage si le visuel proposé n'est pas conforme à notre déontologie, à la loi ou à la neutralité des services publics ». La régie publicitaire fait notamment allusion aux publicités du spectacle de Walidia qui ont été refusées avant leur affichage en début d'année. Pour ce qui est de Jordan Bardella, précise Mediatransport, en l'absence de ces visuels et donc dans l'impossibilité de les analyser, nous ne pouvons pour l'heure prendre de décision. La suite, c'est celle qu'on a tous entendue. Le RN crée la censure après l'annonce de Mediatransport le 28 octobre. La publicité pour le livre de Jordan Bardella ne sera finalement pas diffusée dans les gares. Les visuels des affiches, désormais connus, sont mis en cause. Ils contreviendraient au principe de neutralité de la régie publicitaire.
Pourtant, comme Mediapart l'a révélé fin octobre, d'autres auteurs d'extrême droite ont déjà eu le droit à leur publicité sur les panneaux des gares, SNCF.
Oui, ça a par exemple été le cas de Marceau, dessinateur régulièrement accusé de racisme, misogynie ou homophobie. Il a été plusieurs fois condamné par les tribunaux, notamment pour harcèlement et injures publiques. Début octobre, Dino Brutal Age, sa bande dessinée co-signée avec Papacito, influenceur connu de l'extrême droite, a été affichée dans les gares SNCF. Interrogée sur cette campagne d'affichage par Mediapart, la directrice de la communication de Mediatransport affirme qu'il n'y a pas de caractère politique dans le visuel en lui-même. Visuel, où il est écrit au premier plan, la BD la plus brutale de la décennie, et on le voit à la couverture de l'ouvrage concerné. Sur celle-ci figure notamment un homme avec un fusil d'assaut, un drapeau américain ou encore une explosion. Connaissant les auteurs de l'ouvrage et la date de parution de la BD, un mois avant les élections américaines, il est étonnant que la SNCF n'ait pas remarqué le caractère politique de ce visuel, mais seulement celui présent sur les affiches de promotion du livre de Jordan Bardella.
Très bien, merci Jules Frécon pour cette première chronique politique. Vous êtes toujours à l'écoute de Good Morning Tour, il est 7h23, l'heure de revenir sur certains des faits marquants de la semaine vus par diverses rédactions. C'est la revue de presse présentée par Victoire Renard de Winter.
Et oui, pour commencer, vous n'avez sûrement pas dû manquer ça, l'élection du nouveau président américain, j'ai nommé Donald Trump. Face à toute l'envergure médiatique de sa réélection, j'ai choisi de relever la crainte des défenseurs du climat. Donc de nouveau, à la tête du premier pays le plus pollueur historiquement de la planète, Donald Trump a un positionnement ferme face à l'urgence climatique, il n'y croit pas. Il revient au pouvoir avec des ambitions plus fortes pour l'industrie des énergies fossiles et souhaite notamment relancer massivement la production de gaz et de pétrole tout en continuant à brûler du charbon. À prévoir donc beaucoup de gaz à effet de serre, et c'est ce qui inquiète les différents interlocuteurs de l'article du Monde paru aujourd'hui. Il relève également l'ambition pour Trump de se retirer de nouveau des accords de Paris, donc c'est l'accord international dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a quelques jours de l'ouverture de la COP29 en Azerbaïdjan, RTL annonce une ambiance dite électrique. En début de semaine, il est tombé le prix Goncourt de littérature décerné à Kamel Daoud pour son nouveau roman « Houri ». Donc ce franco-algérien livre l'histoire d'une jeune femme durant la décennie noire en Algérie, et Daoud l'a vécue et l'a traitée en tant que journaliste à l'époque. On peut apercevoir dans son livre sa colère encore forte contre les autorités de son pays, où le livre a d'ailleurs été censuré. Ce roman reste très controversé, car Kamel Daoud est parfois vu comme anti-religieux, avec une vision assez arriérée de l'Algérie. Lucie Como, journaliste à France Culture, le raconte bien dans la chronique « Houri, la langue d'une femme, la parole d'un éditorialiste ». On l'écoute parler de la protagoniste Aube.
Aube, dont on peine à sentir, malgré tout le pathos des versets dans l'écriture, la véritable humanité, et qui semble là comme un outil littéraire stratégique, tout prêt à pointer ce que Daoud pointe souvent par ailleurs dans ses interventions auprès de médias divers, la crainte de l'islamisation de nos sociétés, y compris occidentales, et ce que, soutenu par le pathos de la fiction, cette crainte peut charrier de représentations simplistes et discriminatoires.
Un livre donc profondément politique selon Ouest France. Et à la question « Le récompensé du prix Goncourt relève-t-il davantage du message politique envoyé à l'obscurantisme islamique que de la reconnaissance de ses qualités littéraires ?» Libération répond « Non, les deux se mêlent et les symboles, c'est nécessaire. » Enfin, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Je parle de la vidéo de l'étudiante iranienne dévêtue devant son université. Selon les groupes activistes, elle aurait voulu protester contre le harcèlement des agents de la sécurité qui lui reprochent de ne pas respecter le strict code vestimentaire islamique. Elle aurait été transférée dans un centre de soins spécialisé pour les troubles psychiatriques. Et l'ONG internationale Amnesty International avait rappelé mardi soir sur X que les autorités iranienne assimile le rejet du voile obligatoire à un trouble mental nécessitant un traitement. Forte inquiétude pour cette jeune femme en France, et de manière générale, la presse fait le parallèle avec la mort d'il y a un peu plus de 2 ans de Mahsa Amini, qui avait déclenché le mouvement massivement réprimé en Iran, Femme, Vie, Liberté.
Merci beaucoup Victoire Renard de Winter pour cette revue de l'actualité de la semaine. Il est 7h26 sur Good Morning Tour. On se retrouve juste après une petite coupure musicale. On écoute Toutes les femmes de ta vie du nouvel album de Julien Doré.
Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Je ne suis pas celle qu'on dispose en jolie statue de cristal. Je préfère quand tu nous oppose, sois mon rival. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en moi réunies? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Je ferai semblant de te croire, quand parfois je sais que tu mens. Je ne ferai même pas d'histoire si tes ex reviennent en courant. Je suis aussi ton oxygène quand tu as le souffle coupé. Une histoire pour s'éloigner des contes de fées. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages toutes les femmes de ta vie en moi réunies? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. Celle que je suis sans la moi, tu vois. Si tu fermes les yeux, regarde en toi, regarde un peu tout ce que tu perds. La femme de ta vie en moi réunie, ton âme sœur, ton chérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie.
C'était Julien Doré avec Toutes les femmes de ta vie, une musique issue de son dernier album. Il est 7h30 sur Good Morning Tour. Vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus. Tout de suite, les informations spéciales élections américaines de Léo Segura.
D'abord, la prise de parole de l'actuel président américain après la victoire de Donald Trump hier. Joe Biden a reconnu la défaite de son camp et a appelé à une transition pacifique et ordonnée avec la prochaine administration. J'espère que nous pourrons, peu importe pour qui nous votons, nous considérer comme des concitoyens et non comme des adversaires, a-t-il déclaré. Tout comme Kamala Harris la veille, le président a néanmoins invité à continuer le combat. L'élection de Donald Trump qui bouscule aussi l'Europe. La nouvelle était à l'ordre du jour hier à l'occasion du sommet de la communauté politique européenne en Hongrie. L'occasion de faire front face à un futur qui semble compromis. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront et nous serons un marché pour eux, a déclaré à cette occasion le président Emmanuel Macron. Viktor Orban, le premier ministre hongrois, s'est de son côté félicité d'une victoire dont le monde avait besoin. Une élection qui fait réagir jusqu'au Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à reprendre contact avec Donald Trump. « Je voudrais profiter de cette occasion pour le féliciter », a ajouté le dirigeant russe. De son côté, le prochain président des États-Unis a partagé hier qu'il envisageait de parler à Vladimir Poutine. Un réchauffement diplomatique qui intervient alors qu'un journaliste américain affirme dans une enquête que les deux hommes se seraient téléphonés en secret jusqu'à 7 fois depuis le départ de Donald Trump en 2021. Les équipes des deux hommes nient ces accusations.
Merci Léo Segura pour ce petit tour d'Europe des réactions politiques à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est l'heure d'ouvrir notre page internationale. En Asie aussi, la victoire écrasante de Donald Trump pose question. En Chine, le gouvernement en place s'interroge déjà sur la version de Donald Trump à laquelle ils auront affaire. La Chine s'inquiète notamment du relèvement des droits de douane entre les deux pays qui avaient déjà compromis les activités commerciales des Chinois lors du dernier mandat de Trump entre 2016 et 2020. En revanche, les dirigeants chinois espèrent un nouveau cap américain sur la question de Taïwan. De leur côté, le Japon et la Corée, alliés des États-Unis en Asie, ont exprimé leurs préoccupations quant au retour de Donald Trump au pouvoir. Tokyo et Séoul s'inquiètent de voir leur protection militaire effectuée par les Américains coûter plus cher, et notamment pour les protéger des menaces nord-coréennes et chinoises. Mais les deux pays craignent encore davantage l'imprévisibilité de Donald Trump, notamment sur le fait qu'il pourrait tenter de renouer le dialogue avec la Corée du Nord. On reste en Asie, il est 7h33 sur Good Morning Tour et c'est l'heure de la chronique de Camille Amara Betati.
Le Japon était frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée.
China's a one-party state.
Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un état-nation.
I don't think anyone would call it a democracy.
Lahore, au Pakistan, fait face à une crise de pollution sans précédent. Tous les établissements scolaires sont fermés depuis le début du mois de novembre et les habitants sont vivement conseillés à rester chez eux pour se protéger du smog, un brouillard de pollution toxique qui envahit la ville. Camille Amara Betati, quelles mesures d'urgence ont été mises en place pour faire face à cette situation critique ?
Les autorités de Lahore doivent faire face au smog, un brouillard de pollution particulièrement toxique devenu insupportable. Le smog désigne un mélange de brouillard et de fumée formant une nappe épaisse, presque irrespirable. Les 14 millions d'habitants vivent sous un ciel constamment voilé et doivent porter le masque pour sortir. Le niveau de pollution atteint des niveaux dangereux, avec une concentration de particules fines 40 fois supérieure aux recommandations de l'OMS, exposant les habitants à des risques de troubles respiratoires ou cardiaques.
Et d'où ce brouillard provient-il ?
Ce smog s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, les émissions massives de véhicules diesel sans filtre et la combustion de charbon. Ensuite, les brûlis agricoles saisonniers amplifient ces émissions de particules fines. À cela s'ajoutent des conditions météorologiques particulières. En cette saison, Lahore est exposé à des vents faibles qui piègent la pollution au-dessus de la ville. Avec la baisse des températures, l'air froid maintient le smog à une faible altitude.
Et comment la pollution réagit-elle face à cette crise ?
Les autorités et les hôpitaux s'organisent pour accueillir les plus vulnérables. Les enfants sont les plus touchés. La situation rappelle tristement le fameux smog de Londres en 1952 qui avait causé des milliers de décès. Aujourd'hui, la pollution a largement reculé en Europe, mais le Pakistan fait souvent face à ce type de crise.
Merci Camille Amara Betati pour cet éclairage. On rappelle quand même que la situation à Lahore reste toutefois un rappel poignant des dangers liés à la pollution atmosphérique, un défi sanitaire mondial encore bien loin d'être résolu. En Afrique maintenant, au Burkina Faso, le président de la transition Ibrahim Traoré, depuis 2022, a annoncé avoir radié cette semaine 16 officiers ou sous-officiers de l'armée burkinabé, parmi eux l'ancien chef de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damimba, aujourd'hui en exil au Togo. Parmi tous les hauts gradés renvoyés par l'actuel président de la transition, certains auraient été enlevés, d'autres seraient même portés disparus. Et puis des tensions post-électorales au Mozambique où plusieurs milliers de manifestants ont envahi les rues de la capitale Maputo hier pour dénoncer le résultat des élections générales du 9 novembre. Un scrutin remporté par le Frémilo, parti politique déjà au pouvoir depuis près de 50 ans. On reste en Afrique. Louattar, bonjour.
Bonjour David.
Vous souhaitiez nous parler de la Mauritanie qui a atteint un afflux critique de migrants sur son sol. Selon son gouvernement, le ministre de la Défense, Anena Ould Sidi, a profité du passage de son homologue espagnol à Nouakchott au début du mois pour tirer la sonnette d'alarme. Louattar, pourquoi la Mauritanie connaît-elle un contexte migratoire si tendu ?
Alors ce pays du nord-ouest de l'Afrique est en fait un pays de transit. Beaucoup l'empruntent pour ensuite accéder à la route de l'Atlantique. La situation s'est particulièrement dégradée à la fin de l'année dernière. Entre 2023 et 2024, le nombre d'arrivées de migrants sur le sol mauritanien a doublé. Ces derniers passent par la Mauritanie pour rejoindre plus facilement les Canaries. Cet archipel représente la première porte sur l'Europe. En 6 mois, l'arrivée des migrants sur les îles Canaries a augmenté de 126%, passant de 9 000 à 22 000 migrants. Et sur ces 22 000 migrants, 13 000 partaient de Mauritanie au premier semestre 2024.
On rappelle que les îles Canaries sont une communauté autonome d'Espagne. Mais comment est-ce que le gouvernement de Pedro Sanchez gère cette migration ?
Alors, les gouvernements espagnols et mauritaniens restent en étroite collaboration pour gérer ce flux. Cet été, les deux pays ont signé des mémorandums d'entente bilatéraux de migration circulaire. Cet accord permet de faire entrer des migrants sur le sol espagnol en fonction du besoin de main-d'œuvre. Et pendant ces discussions, les deux pays ont affirmé porter une attention particulière à l'exode des plus jeunes et des femmes.
Et concrètement, comment est-ce que l'Espagne aide la Mauritanie ?
Madrid finance régulièrement le contrôle migratoire. Chaque année, c'est 10 millions d'euros de l'Espagne qui permettent de former et d'équiper les gardes-côtes mauritaniens. En échange, Nouakchott doit accueillir les exilés en situation irrégulière arrivés aux Canaries. Et d'un point de vue national, la Mauritanie a organisé plusieurs réunions début septembre pour examiner des textes de loi visant à durcir le contrôle aux frontières. Par exemple, un tribunal spécialisé dans la répression du trafic de migrants doit être mis sur pied.
Si les migrants cherchent à aller en Europe, est-ce que ce fort afflux inquiète les instances de l'Union ?
En février dernier, Ursula von der Leyen s'était rendue en Mauritanie avec Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, pour parler justement de la question migratoire. 200 millions d'euros ont été débloqués pour aider la Mauritanie. Et même si majorité de migrants ne font que transiter par le pays, beaucoup restent pour fuir l'instabilité au Sahel, à la frontière avec le Mali, l'unique camp de réfugiés à Mbra. Est saturé. Il accueille actuellement près de 112 000 personnes.
Merci Louattar. Il est 7h38 sur Radio Campus Tour et on fait une petite coupure dans notre chronique internationale. On écoute Lauryn Hill, X Factor.
See, no one loves you
C'était X Factor de Lauryn Hill. Il est 7h44 sur Radio Campus Tours. On rouvre notre page internationale en filant sur le continent américain où, après de longues semaines de campagne, Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis. Le candidat républicain s'est largement imposé, loin des résultats très serrés pourtant promis par de nombreux sondeurs. Plus étonnant encore, les démocrates ont reculé dans certains de leurs bastions historiques. Théo Leur, l'histoire serait-elle en train de se répéter ?
Eh bien, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Ce n'est pas de moi, mais de Karl Marx. Quand on voit Donald Trump revenir à la Maison-Blanche, on pourrait se dire que l'histoire se répète en effet. Il y a plusieurs similitudes avec 2016, sa première victoire. Une campagne faite de radicalité et d'outrance. Une opposition face à une candidate démocrate, Hillary Clinton à l'époque, Kamala Harris cette année. Et puis une victoire assez tôt dans la soirée.
Une situation proche, donc, mais pas identique. En 2016, c'est Hillary Clinton qui avait obtenu le plus grand nombre de voix exprimées.
En effet, avec le système américain, il est possible d'obtenir le plus de voix sans remporter l'élection. Les démocrates étaient alors accrochés à ce détail pour justifier leur défaite. Selon eux, elle ne tenait finalement qu'au système électoral américain assez spécifique. Cette année, Kamala Harris a largement perdu avec 226 grands électeurs contre 301 pour Donald Trump. Surtout, le plus étonnant peut-être, le républicain a gagné le vote populaire et de loin, près de 5 millions de voix devant sa rivale. Alors oui, Donald Trump a bien sûr remporté plusieurs swing states importants que sont la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin ou encore la Géorgie. Mais ces bons résultats dans les États qui comptent n'expliquent pas tout. Ce sont avant tout les gains des républicains dans les localités historiquement très démocrates qui ont une influence. À New York, par exemple, bastion démocrate, Kamala Harris a fait au moins 5% de moins de bien que Joe Biden en 2020 dans plusieurs quartiers. Le plus parlant, les démocrates ont perdu près de 170 000 voix, soit 10% des votes exprimés dans le Queens, 110 000 dans le Bronx, toujours 10% de moins. Et puis même contre-performance dans les comtés autour de Miami en Floride. Donald Trump a même réussi à prendre le comté de Miami-Dade, historiquement démocrate, alors qu'il ne l'avait pas fait en 2020, que Biden l'avait gagné à 53% en 2020, donc, et Hillary Clinton à 63% en 2016.
Des résultats sans appel que Kamala Harris a reconnu dans une prise de parole mercredi soir.
Eh bien, ce discours était attendu dès le soir de l'élection. Il a finalement eu lieu le lendemain, toujours devant l'université d'Harvard à Washington DC, là où Kamala Harris a fait toute sa scolarité. La vice-présidente a en effet reconnu les résultats et sa défaite. Elle a enjoint ses participants à faire rayonner, je cite, « la lumière de l'optimisme, de l'espoir, de la vérité dans un moment sombre qui s'ouvre pour les États-Unis selon elle ». Au terme de cette campagne, les Américains et le monde entier font un saut dans l'inconnu quant à ce que sera réellement la présidence de Donald Trump. Le nouveau président élu doit maintenant constituer son équipe gouvernementale et préparer son investiture de janvier 2025. Ce qui est sûr, c'est que contrairement à celle de Joe Biden en 2020, très critiquée par les Républicains, la victoire de Donald Trump cette année ne fait pas l'ombre d'un doute.
Merci Théo Leur pour cet éclairage sur les résultats de cette élection américaine. Et vous restez avec nous puisque vous recevez sur le même sujet Jamie Smith-Maillet pour aborder les répercussions de ces élections à l'échelle européenne. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Il est 7h55 sur Good Morning Tour. Et pour conclure cette page spéciale américaine, pardon, écoutons America Has a Problem de Beyoncé et Kendrick Lamar.
America has a problem. Line watcher, PG Lane collar, 9/11 slider, look at my garages, synced up, get the genie at the bottle and point at any model. Ghosting, fuck it up, ghosting, fuck it up, ghosting, that's what's up, ghosting. Hey, Bobo, too much complexity to learn me from Google. My mama told me that the money outgrew you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a doodle. Say B, yes, America got a problem. Geeked up, choosy lover that chose violence. Universal, please don't play possum. I'm a businessman, doing as follows. Truthfully, I be lying in my rap song. Cause I always felt a mission, I slap homie. His career didn't come with no life insurance. Hope his day one fans got some facts on him. I'm an honorary beehive, let's see why. Them diamonds don't be fly. They all CGI. You better get it off your chest like breath reduction. If she stress over you, she stress for nothing. Hold up, wait a minute. Even AI gotta practice cloning Kendrick. The double entendre, the encore remnants. I bop like Tin Men, the ops need Tin Men. Billboard, they know. Buster at the us. Hole, rightfully so. Culture. Simmer down, I go.
Cause you got that deep for me. Real love is deep for me. I'ma make you go weak for me. Make you wait a whole week for me. I see you watching, feeling. I know you want it, seeming. I know you need it, drug lord. You want it on you, don't I know? You need love, I need some too. Do you want this, like it wants you? Know that booty gon' do what it want to. Can't hit it one time, comfortable. I know you see this racks on me. Now come and get high. 20/40/80 out the trap. Hit it with the rap, put it on the map. Then we right back. Call me when you wanna get high. Tony Montana with the racks, I be P on my bag, double G's on my dash. Nigga, I'm bad. I'm bad. When you wanna get, boy, you can't get no higher than this. No,
no.
Cause love don't get no higher than this. No,
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 no.
Grind, boy, you know I grind when I pull up this change of mind. When I step on the scene, they can't wait to back it up. Yeah, it's still a dope, but it ain't crack enough. I'm supplying my man, I'm in demand. Soon as I land, just know I roll with them goons. In case you start acting familiar, this kind of love, big business, whole slab.
But
I
feel you can't
for.
Get no higher than this.
No,
cause love don't get no higher.
C'était America Has a Problem de Beyoncé et Kendrick Lamar. Tout de suite, les informations sportives présentées par Mathis Maudet.
On commence ce flashport avec la quatrième journée de Ligue des Champions qui a réservé son lot de surprises. 10 points sur 12 remportés en 4 matchs. Qui aurait prédit que Monaco et Brest seraient 3e et 4e dans cette nouvelle formule qui réunit 36 équipes dans une même poule. Ce mardi 5 novembre, les Monégasques ont arraché leur victoire 1-0 sur la pelouse de Bologne. En toute fin de match, sur corner, le capitaine Thilo Kehrer a repris le ballon au second poteau pour inscrire le but victorieux. Dans la même soirée, Lille a accroché la Juventus de Turin en obtenant le point du match nul, un partout. Les Lillois restent dans la course au play-off avec 7 points. Ils sont classés 14e au niveau de leur adversaire du soir, d'Arsenal ou encore Manchester City. Le lendemain, mercredi 6 novembre, les Brestois, largement dominateurs à Prague, ont emporté facilement 2-1 grâce à une réalisation de Fernandez et un but contre son camp de Kerinen. De son côté, le Paris Saint-Germain a concédé une défaite 2-1 contre l'Atlético Madrid, leur première dans la phase de poule. Pour le moment, ils ne sont que 25e et donc pas qualifiés pour la suite de la compétition. Il roule sur la concurrence en Formule 1. Max Verstappen se dirige plus que jamais vers un nouveau titre de champion du monde. Ce week-end au Brésil, le 21e Grand Prix de la saison se tenait sur le mythique circuit d'Interlagos. Sous une pluie battante, le triple champion du monde en titre Max Verstappen s'est imposé. Il partait de la 17e place au volant de sa Red Bull. Il a profité des multiples faits de course pour finalement devancer Esteban Ocon et Pierre Gasly, les deux Français d'Alpine. Lando Norris, son dauphin en classement général, parti en pole position, n'a terminé lui que 6e de la course. Alors qu'il ne reste que 3 Grands Prix à disputer, le Britannique compte 62 points de retard sur le Néerlandais. Mathématiquement, Max Verstappen pourrait remporter son 4e titre de champion du monde à Las Vegas dans 2 semaines. Il lui suffirait seulement de finir la course devant le Britannique. On s'envole en Malaisie, on retire 2 roues et on se retrouve avec les MotoGP. De l'autre côté de la planète, le duel au sommet entre Jorge Martin et Francesco Bagnaia a eu lieu sur le circuit de Sepang. Sur sa Pramac, le leader du championnat Jorge Martin a terminé 2e dans la route de la Ducati pilotée par le double champion en titre. Grâce à sa 2e place, l'Espagnol conserve un matelas confortable de 24 points d'avance sur son dauphin au championnat. Cette saison se jouera donc lors du dernier Grand Prix à Barcelone du 15 au 17 novembre prochain. Pour remporter sa première couronne, Jorge Martin devra obtenir un résultat lui offrant 2 points de plus que son adversaire. On conclut ce journal avec le résultat de l'EPJTFC, 4e match de championnat et 4e victoire pour nos joueurs. L'EPJT s'est imposé 8-4, notamment grâce au quintuplé de Julian Schneider. On remercie nos supporters qui se sont déplacés au stade de la Vallée du Cher.
Merci Mathis Maudet pour ce résumé des informations sportives de la semaine. On passe à un tout autre sujet sans transition. En France, chaque année, 321 000 femmes âgées entre 78 et 74 ans sont victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques, toutes causées par un conjoint ou ex-conjoint. Ces chiffres proviennent de l'enquête violence et rapports de genre réalisée par l'INED en 2016. À Tours, l'association Les Établis se mobilise pour lutter contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles.
Sylvie et Mélodie sont les cofondatrices des Établis. Créée en septembre 2022, c'est une association de
lutte et de prévention au sujet des violences et de toutes les formes de violences et de discrimination, particulièrement les violences sexistes et sexuelles adressées aux enfants, aux personnes LGBT, aux femmes, mais aussi aux hommes. On a un axe de prévention essentiellement dans le milieu festif, mais pas que. Un axe de formation ou de sensibilisation à toutes ces thématiques, mais aussi au consentement, au vivre ensemble, et un axe d'accompagnement individuel pour les personnes dans le besoin, qu'elles soient victimes, témoins ou auteurs, autrices de violences, ou dans la situation de professionnels ou de référents VHSS ou autres qui auraient besoin d'être étayés.
Elles ont créé le dispositif Safe Zone pour former, prendre en charge et orienter les victimes de VSS lors d'événements. Mais alors, comment ça fonctionne ?
Une année, une femme se fait accompagner par un festivalier qui était présent lors de la scène de violence. Il se trouve que cette femme était avec son compagnon. Et elle est venue sur la safe zone un peu en panique en disant « J'ai plus mes lunettes, il a acheté mes lunettes, je vois plus rien ». Bon, beaucoup de stress, beaucoup de panique. Donc c'est la psychologue qui a fait un entretien avec cette personne. Un entretien qui a révélé que cette personne était une femme battue. Donc là, on a pu se mettre en place à la fois un suivi psychologique, un suivi avec la gendarmerie, puisqu'on a fait appel à la gendarmerie qui a donné rendez-vous pour un dépôt de plainte. Enfin, la personne, elle a été prise en charge dans sa globalité.
Sylvie et Mélodie ont aussi créé un autre dispositif. Free Payette. Celui-ci sert à recueillir la parole des victimes de VSS et gérer des situations problématiques lors d'événements. Pour les rencontrer, rendez-vous le 8 novembre à Amboise dans l'ancienne piscine Georges Valeret.
Vous pouvez également les retrouver sur Instagram au @freepayette, FR2E Payette au pluriel tout attaché. Vous pouvez aussi appeler le 3919 qui est le numéro national anonyme et gratuit destiné aux personnes victimes de violences ainsi qu'à leur entourage. Parlons maintenant d'un Normand âgé de près de 100 millions d'années. Son nom, Caleto Draco Cottardi. C'est le nom donné à ce nouveau dinosaure découvert entre Etretat et Le Havre. Une découverte exceptionnelle, rendue publique cet été dans la revue scientifique Study Fossil. Lucago nous emmène ce matin sur les traces de ce dinosaure.
Et non, nous ne sommes pas sur une île tropicale perdue en plein milieu du Pacifique, comme le laisse entendre cette musique de Jurassic Park, que j'espère vous avez tous reconnue. C'est bien en Normandie, plus précisément dans les falaises de Saint-Jouin-Bruneval, en Seine-Maritime, que le dinosaure a décidé d'établir sa sépulture. Donc 6 mètres de long, une queue étendue et de petits bras, ça ne vous rappelle personne ? Et oui, parmi ses lointains cousins, le célébrissime Tyrannosaure Rex, T-Rex, je vous laisse imaginer la famille, mais les deux géants prédateurs qui vivaient durant le Crétacé, la dernière période géologique avant l'extinction des dinosaures, ne se sont sûrement jamais croisés. Le T-Rex ne vivait pas en Europe, contrairement à notre congénère normand. Alors, si cette découverte est aussi exceptionnelle, c'est aussi parce que ce dinosaure est le premier grand carnivore découvert sur le continent européen.
Donc un cousin du T-Rex découvert en Normandie, que faisait ce dinosaure dans les falaises normandes ?
Eh bien, mystère, pour le moment, les scientifiques n'ont que des hypothèses. En fait, durant le Crétacé, la Normandie et la majeure partie du nord de la France étaient sous la mer. Seul le massif armoricain en dépassait. En soi, c'était la Bretagne et l'ouest un petit peu de la Normandie et des Pays de la Loire. Le dinosaure aurait donc été emporté par la mer sur des centaines de kilomètres avant de se faire dévorer par un requin préhistorique et de tomber au fond de la mer. Car, surprise, en plus des ossements du reptile, une dent de requin a été retrouvée au même endroit.
Un dinosaure et une dent de requin, c'est complètement fou. Dans quelles circonstances ont été faites ces découvertes ?
Alors là, on touche un petit peu à une sacrée histoire. C'est en fait un paléontologue amateur, Nicolas Cotard, qui a découvert la première partie du fossile en 2021 et une seconde en 2023. Il lui donna d'ailleurs son nom, Cotardi pour Cotard, une récompense que la plupart des paléontologues doivent aujourd'hui lui envier.
Merci Lucago pour cette histoire qui a dû en replonger certains dans leurs souvenirs d'enfance. Il est 8h06 sur Good Morning Tour, on revient juste après Digital Love des Daft Punk. Il est 8h08, vous êtes toujours à l'écoute de Good Morning Tour et vous venez d'écouter Digital Love des Daft Punk, le groupe d'électro français mythique, hélas séparé depuis 2021, mais ils reviendront très bientôt, cette fois au cinéma, Jules Bourbotte, c'est bien ça ?
Ouais, exactement, c'est prévu pour le 12 décembre d'ailleurs, hein, c'est peut-être pas connu de tous.
Et encore moins pour ceux qui sont nés après les années 2000, mais oui, les Daft Punk ont eu une aventure cinématographique dans leur carrière. Le film en question, c'est un métrage d'une heure environ, paru en 2003 et qui répond au doux nom d'Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Derrière ce nom d'emblée évocateur d'un univers de science-fiction, se cache une œuvre culte d'animation et de collaboration franco-japonaise. Sortez les pistolets laser, les filtres à paillettes et envoyez les synthés. Réalisé par Kazuhisa Takenouchi, à la baguette sur plusieurs autres films d'animation comme Dragon Ball ou One Piece notamment, le tout est supervisé par le légendaire Leiji Matsumoto, maître de la science-fiction et papa d'Albator. Un rêve pour les Daft Punk, deux enfants des années 70 biberonnés au rétro-futurisme qui ont pu grandir en regardant Ulysse 31, Cobra ou Albator justement. En résumé, il y avait du lourd derrière cette adaptation au cinéma de l'iconique album Discovery paru en 2001. Et oui, petit twist, le film est muet. mais reprend en intégralité les 14 titres présents sur l'album. Et voilà que la semaine dernière est annoncée la sortie en salle pour une date unique d'un remaster du film plus de 20 ans après sa sortie. Une projection prévue donc le 12 décembre, partout dans le monde. Autant dire que les fans ont dû commencer à baver devant la nouvelle, qui s'accompagnait d'ailleurs d'une réédition limitée du vinyle et d'un merch inédit. Si au départ la bave n'était pas synonyme d'un départ de rage, le goût laissé par cette annonce est devenu bien vite amer pour les petits électronicos. Oui, c'est le nom que j'ai choisi de donner aux fans d'électro, je fais ce que je veux. Et là vous allez me dire, mais Jules, pourquoi diable cette méfiance? Je ne distingue guère de difficultés. Eh ben si, il y en a un gros de problème et je fais partie des premières à l'heure. Pour vous la faire courte, l'équipe de mecs en costume détenteurs des droits s'est dit que ce serait quand même vachement cool et peut-être un peu moins cher si le remaster était confié à une intelligence artificielle. Pour continuer de vous la faire courte, un remaster c'est une actualisation de l'œuvre originale grâce aux techniques d'aujourd'hui, donc une refonte de l'image et du son. La polémique n'est pas nouvelle, elle est déjà intervenue en début d'année quand True Lies ou encore Alien le retour de James Cameron était ressorti en salle, aussi remasterisé par IA. Sont dénoncées à chaque fois une dénaturisation de l'œuvre, une perte de l'essence originale du film, mais également dans certains cas, une dégradation pure et simple en raison d'une IA mal entraînée. Alors, avoir ses réserves c'est ok, mais cracher sur le film c'est non, tant qu'on l'a pas vu, et pour ça une seule solution, il faut être dans les starting blocks le 13 novembre, mercredi prochain, à l'ouverture de la billetterie en ligne. Car une chose est sûre, malgré la polémique, il n'y aura pas de siège libre le jour J.
Merci beaucoup Jules Bourbotte pour cet éclairage sur les Daft Punk. Sans transition, 8 étudiants de deuxième année de l'EPJT ont participé pendant plusieurs semaines à la présélection du prix Anna Politkovskaya Armand Soldin du courage journalistique. Ils ont ensuite assisté à la cérémonie de remise du prix ce mardi au ministère des Affaires étrangères à Paris. Marie-Camille Chauvet y était et elle nous raconte comment les journalistes en formation ont vécu cette expérience.
Ils étaient loin, les terrains de guerre. Loin aussi les bruits de la violence, ceux de l'artillerie lourde mêlés aux cris des enfants. À des milliers de kilomètres, le silence destructeur de la corruption. À des frontières de là, les journalistes emprisonnés, torturés, assassinés. Confortablement installés dans une salle de cérémonie majestueuse, après avoir traversé 3 salons plus clinquants les uns que les autres, nous avions l'impression d'être loin, vraiment très loin de ce courage journalistique que nous avions à juger. Éloignés donc, mais pas étrangers. Non, parce que de courage journalistique, nous espérons faire preuve, plus tard, dans nos carrières. Pour l'heure, nous admirons nos consoeurs et confrères, celles et ceux membres du jury qui remettaient ce prix, et celles et ceux dont les candidatures sont tombées entre nos mains. Parce que si nous étions là, au Quai d'Orsay, en ce mardi brumeux de novembre, c'était bien pour honorer le courage journalistique et désigner une candidature qui sortait du lot.
Et comment avez-vous procédé pour évaluer les candidatures ?
En tant qu'étudiants, nous devions retenir 10 candidatures de journalistes sur presque 60. Il nous fallait juger la qualité des productions, mais surtout le risque pris par les professionnels dans leur travail de terrain. Et sans entrer dans les détails, car les délibérations sont tenues secrètes, ça n'a pas été une mince affaire, parce qu'il est difficile de juger ce qui est plus courageux entre couvrir la guerre en Ukraine, relater son quotidien dans la bande de Gaza, dénoncer les trafics d'influence en Amérique latine, en Inde, en Irak. Passé cette première question, d'autres se sont enchaînés. D'abord, celle de savoir si un journaliste déjà récompensé pour son travail devait à nouveau l'être. Est-ce qu'avoir eu le prix Bayeux, qui récompense des reporters de guerre, annule le droit de remporter ce prix ? Est-ce qu'un journaliste qui n'habite pas sur une zone en tension mais qui s'y rend régulièrement est moins méritant que celui qui y vit depuis des années ? Après de longues discussions, nous avons fini par nous mettre d'accord et nous avons motivé chacun de nos choix. Ils ont été transmis au jury final composé de journalistes qui a eu le dernier mot.
Et le nom dévoilé correspondait-il à vos attentes ?
Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu une surprise. Il n'y a pas eu un, mais 2 journalistes récompensés au titre de leur travail conjoint. L'un est israélien, l'autre palestinien, vivant en Cisjordanie occupée. Yuval Abraham et Basel Adra ont tous les deux travaillé pour un même média israélo-palestinien indépendant, nommé Plus 972. Ils ont aussi coproduit un documentaire intitulé No Other Lands, à paraître dans les prochains jours. À l'écran, on témoigne de la colonisation israélienne sur les territoires palestiniens et la Cisjordanie occupée, mais aussi de l'amitié qui se forme entre ces 2 jeunes hommes qui partagent une même vocation, celle du journalisme.
Et qu'est-ce que vous tirez de cette expérience ?
Qu'il n'y a jamais de bon choix, pas de bonne réponse. Il y aura des regrets, il y aura des déçus. En désignant ces 2 vainqueurs, on ne récompense pas les journalistes qui travaillent directement depuis la bande de Gaza. Il en reste pourtant si peu, 130 ont été tués depuis le 7 octobre. On ne met pas non plus en lumière d'autres régions en tension. Des journalistes meurent en Palestine, mais aussi ailleurs, en Ukraine et en Russie par exemple, où sont respectivement morts Armand Soldin et Anna Politkovskaya, qui ont donné leur nom à ce prix. Leur vie là-bas est menacée quand la voix d'autres ailleurs est étouffée. En 2024, RSF estime que 521 journalistes sont détenus partout dans le monde. Les principaux pays qui enferment les journalistes sont la Chine, la Birmanie, la Biélorussie, la Russie et Israël. Une fois que l'on a récompensé un, peut-être deux journalistes, que nous reste-t-il ? Que faire pour honorer tous les autres, les vivants comme les morts ? Je n'ai sûrement pas fini de répondre, mais il me semble que pour se souvenir de leur travail, il faut le lire, le regarder, l'écouter. Et enfin, je pense qu'on peut honorer le courage journalistique en ayant foi en ce métier, en l'apprenant tous les jours, à l'école, sur le terrain, et même dans ce studio où l'on se réunit tous les vendredis matins. Il me semble que c'est notre manière à nous, futurs journalistes, de faire honneur à l'information vérifiée, fiable et honnête.
Merci Marie-Camille Chauvet. Il est 8h15 sur Radio Campus Tours. C'est déjà la fin de cette 7e émission. Je remercie toute l'équipe du jour. Léo Segura, Jules Frécon, Victoire Renard de Winter, Camille Amara Betati, Lou Attar, Théo Leur, Mathis Maudet, Angelina Richard, Lucas Gau, Jules Bourbotte, Marie-Camille Chauvet, mais aussi Gabriel Ziard et Angelina Trabelsi à la technique. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle matinale sur 99.5 FM. Prenez soin de vous et on vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous.